Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Dupuis.
Mais bonjour Stéphane.
Salut Julien.
Bah ouais.
Pour parler d'un film au titre français un peu générique quand même, faut bien le dire, hein, L'Enquête.
Oui. Alors de quelle enquête on va parler?
Voilà, c'est ça. Parce que L'Enquête, ça pourrait être le film sur Denis Robert par exemple.
Ah, par exemple.
Ça aussi après, tu vois.
Les gens pourraient se dire mais ils sont un peu cons, donc ça se trouve ils ont confondu avec Contre-Enquête.
Contre-Enquête, tu vois, avec de Sidney Lumet, pas du tout, tu vois. Non, L'Enquête, que moi je suis surnommé affectueusement, vu le titre français un peu bas du front, tu vois, un peu simple, un peu facile, La Quéquette. Voilà, donc il fallait que ça soit dit. Mais parce que je préfère le titre français, le titre international, The International, tu vois, c'est quand même
Mais pourquoi La Quéquette?
Quel rapport, c'est pas
un film qui est porté sur la chose,
pas du
enfin.
Tout, mais en fait, je pense que le mec qui a choisi ce titre en France, il en a une petite, voilà.
J'aime bien travestir
les titres, c'est tout.
Mais voilà.
C'est rigolo.
Donc La Quéquette.
La Quéquette, voilà. Avec Clive Owen.
Pourquoi je rigole? Voilà. Rigoler, c'est-à-dire cautionner. Non, il ne faut pas que je rigole.
Tu ne dois pas cautionner mes blagues de merde.
Bon, voilà. Alors,
The International de Tom Tykwer.
Mais oui.
Alors, comment on dit Tom Tykwer?
Tom Tykwer.
Tom Tykwer.
Voilà. Alors, moi, j'ai jamais fait de d'allemand ou quoi que ce soit,
non,
mais c'est Tykwer, on dit.
Tykwer. Réalisateur, comment dire, qui s'est fait connaître par Cours Lola Cour.
Cours Lola Cour, mais qui est justement quelqu'un, c'est moi qui t'ai suggéré, qui t'ai dit, mais il faudrait qu'on parle quand même de Tom Tykwer. On n'a jamais parlé. On s'est dit que c'était un bon film pour commencer sur sa carrière qui recèle quand même quelques vraiment bons films. Et donc qu'on connaît pour Cours Lola Cour, qui s'est fait, je pense que les films qui l'ont identifié ensuite, c'est Le Parfum probablement, parce que c'était une adaptation d'un roman allemand merveilleux, hein, que je vous conseille de lire, de Patrick Suskind, qui avait longtemps intéressé d'ailleurs Stanley Kubrick. Donc c'est pour ça aussi que le roman avait eu une espèce d'aura comme ça à un moment donné, et que le film lui-même avait une aura, parce qu'on disait bon, c'est impossible, c'est une adaptation impossible, etc. Et qui ensuite a beaucoup travaillé avec les Wachowski, qui a travaillé un peu avec Tarantino, hein, comme tu le sais, puisque c'est lui qui a traduit les dialogues de Inglourious Basterds en allemand,
oui,
en
vrai,
fait,
ouais.
Pour lui. Donc voilà, qui a ensuite travaillé avec les... Et tu ne le savais pas apparemment, Stéphane, je suis très déçu, tu es un faux fan.
Ça, tu vois.
Et qui est...
Bon, en plus, Inglourious Basterds, c'est vraiment pas celui que je préfère.
Oui, oui, c'est clair. Je dis c'est clair que bon... Bref, mais passons. Et qui a ensuite travaillé beaucoup avec les Wachos, donc notamment sur Cloud Atlas.
Sense8.
Alors déjà, il faut savoir que les Wachowski le citaient pour Matrix, en fait. Ils disaient que c'était un truc sur lequel il y a des plans faits, un plan avec Trinité, apparemment, qui citait Cours Lola Cour, enfin en tout cas eux disaient qu'ils se sentaient dans cette mouvance là, mais nous en parlerons peut-être plus tard. Mais ils ont travaillé en tout cas sur Cloud Atlas. Il est carrément co-réalisateur avec les deux sœurs Wachowski, co-compositeur de la musique, parce que c'est une des particularités de Tom Tykwer, c'est qu'il est comme quelques autres, comme Alejandro Amenábar par exemple, et il écrit la musique de ses films, ce qui est un truc qui m'a toujours fasciné. Moi j'avais posé la question à Amenábar, j'ai dit mais comment tu peux écrire la musique en plus de ton film? La musique arrive à un moment où en général le réalisateur il est lessivé et tout, apparemment c'est quand même pas facile. Mais ces mecs ont une espèce de malédiction, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent vraiment tellement précisément qu'ils n'arrivent pas à déléguer en fait à ce moment-là.
Oui, puis le style musical de Tykwer, il est quand même très spécifique aussi. Quoi.
Il se reconnaît pas mal, c'est souvent des choses cycliques en fait, comme ça, qui tournent, qui correspondaient merveilleusement bien, moi je trouve, à Cloud Atlas. Et ils ont travaillé effectivement ensuite sur Sense8, où il était un des réalisateurs avec les sœurs Wachowski et James Matic Tig, en fait, ils étaient comme ça. C'est ce groupe de quatre réalisateurs, en fait, se partageant, en fait, la mise en scène des épisodes. Et c'est quelque chose qu'il a poursuivi avec une autre série que je vous invite à découvrir, vraiment, tout à fait récent, qui s'appelle Babylon Berlin, qui, je crois pas... Je sais plus si où elle a été diffusée en France, mais en tout cas, elle est sortie en vidéo, en Blu-ray, qui est une... je vous le piche rapidement parce qu'on parle pas de ça, mais en même temps, c'est une série qui pourrait rentrer dans le cadre de Steroid, qui se déroule, en fait, dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, plutôt dans les années 30, et qui est une version, on va dire, James Ellroyenne, en fait, du Berlin de cette époque-là. Donc, vous aurez à peu près compris ce que je veux dire là-dedans, c'est-à-dire des crimes très crapuleux qui permettent, en fait, de scruter la totalité, en fait, de la ville de Berlin à cette époque donnée, des prostituées aux grands dirigeants, des flics plus ou moins ripoux, aux milieux les plus pauvres, en fait, de Berlin. C'est vraiment une très très bonne série, vraiment hyper, vraiment mise en scène. Enfin, lui, Tom Tykwer se positionne comme ça aujourd'hui en disant moi aujourd'hui, c'est juste que je fais un film qui est beaucoup plus long. Bon, je pense que ça reste quand même un peu plus compliqué que ça, mais c'est voilà. On sent qu'il y a une vraie ambition de mise en scène et on va beaucoup, je pense, parler de mise en scène dans The International. Putain, après cette intro qui n'en finit pas, nous arrivons enfin
puis c'est
au sujet.
C'est
important de le présenter, Tom Tykwer. C'est pas forcément évident.
Parce que c'est un artiste assez complet, mine de rien, qui assez versatile aussi. Il fallait le dire aussi parce qu'il a fait aussi des comédies. Il a
exactement,
fait,
des comédies romantiques,
voilà, des trucs de trio. Enfin voilà, donc il y a tout un truc en fait autour de... C'est-à-dire, il est en plus bon. C'est-à-dire que c'est pas un réalisateur installé aux États-Unis à proprement parler. D'ailleurs, l'enquête.
Ils s'en foutent un peu.
Mais l'enquête, c'est son premier vrai film de studio, on va dire, à l'époque.
C'est une coprode allemande, beaucoup tournée à Berlin.
Beaucoup tournée à Berlin, mais c'est quand même un film Sony. C'est un budget, mine de rien. Et ça se sent dans le film, je trouve. C'est pas un petit film, quoi.
Ouais, c'est sûr.
C'est un film aussi intéressant pour savoir comment quelqu'un, en fait, qui est finalement assez insaisissable, puisse arriver à se retrouver là-dedans. Alors, moi, j'aimerais bien que tu pitches le film.
Pourquoi c'est toujours à moi de pitcher?
Parce que c'est toujours la personne. Moi, je présente, moi.
Faites une pétition, ceux qui nous écoutent, pour que j'arrête de pitcher. Ouais,
ça n'a jamais marché, tes histoires de pétition.
Alors ça, c'est hyper dur à pitcher, pour le coup, The International, parce que c'est, par définition, un récit assez abscon. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il le présentait. Tom Tykwer, il disait « Je veux noyer et perdre les spectateurs », et les rattraper au bout d'un moment. Alors, je suis pas sûr que ce soit le truc qu'il aurait le mieux réussi à faire dans le film, mais
assez balisé, je trouve, par certains côtés sur l'écriture.
Mais en tout cas, voilà. Donc, en gros, pour la faire très, très, très simple, c'est un agent d'Interpol qui est interprété par Clive Owen, qui était vraiment, alors lui, dans sa période merveilleuse, parce qu'il sortait des Fils de l'Homme et puis de Inside Man. Puis après, ça a quand même pas vraiment tenu la route, et c'est bien dommage.
En termes de qualité, tu veux dire ?
Oui, c'est ça. Mais bon, donc c'est un agent d'Interpol qui enquête conjointement avec une employée d'un cabinet de procureur de Manhattan sur une banque qui aurait des agissements tout à fait condamnables, mais à très haut niveau, que ce soit sur le trafic d'armes ou le blanchiment d'argent. Et tous les deux vont... On arrive, en fait, au cours de cette enquête. On n'en voit pas le début, au final. Ça fait partie des choix d'écriture que j'aime beaucoup, personnellement. On arrive au cours, mais on arrive à un point en même temps central où il y a un de leurs collaborateurs, un de leurs bras droits, en fait, qui se fait tuer après avoir quasiment touché au but. Et tout le récit, tout le film va être comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont quasiment toucher au but en permanence, et en permanence, là, la banque, plus ils vont progresser, on va dire, dans leur enquête, plus la banque va dévoiler à la fois ses projets et en même temps ses méthodes totalement mafieuses, jusqu'à pousser nos héros dans leur dernier retranchement. Et c'est là aussi où moi, j'aime beaucoup le film, et ça, nous en parlerons plus tard. Donc vous aurez déjà compris, malgré ce pitch quelque peu nébuleux, enfin je crains qu'il ait été quelque peu nébuleux, qu'on est vraiment on n'est pas vraiment sur un film d'action, même si ça aussi on va en parler, parce qu'il y a une belle scène d'action dans le film, mais on n'est pas vraiment sur un film d'action.
Une très belle scène d'action.
Qui est vraiment excellente, mais on est sur un pur thriller politique à la Trois jours du Condor, Les Hommes du Président. Tous ces films des politiques, en fait, des années 70. Enfin,
et quasi fétichiste à la base, puisque en fait, c'était un film qui devait se passer dans les années 70. C'est-à-dire que, en gros, c'était le premier scénario. Et Tic Vert, justement, qui a beaucoup retouché le truc, même s'il n'est pas crédité. Mmh. En tout cas, il a beaucoup développé avec le scénariste. A précisé que l'idée, c'était d'en faire un film contemporain, puisque, en fait, ses problèmes sont contemporains. En fait, ouais. Ils existent. Et d'ailleurs, de manière assez. La coïncidence veut que le film soit sorti à peine quelques mois après.
Lehman Brothers.
Ouais, et en fait, la grosse crise financière qui a suivi.
Voilà, une crise financière monumentale et qui, justement, te laissait entrevoir. Et c'est marrant parce que le film ne devait pas sortir vraiment là. La sortie a été repoussée. Mais la sortie a été bloquée. Et j'imagine que pour le film, en fait, ça tombait bien. Parce que c'est vrai que c'était un film qui, à un moment où vraiment. C'était difficile d'avoir foi dans les banques si tant est que vous aviez foi dans votre banque auparavant. Quoi.
Alors, c'est un film qui n'a pas marché.
Non, pas du tout.
Qui s'est planté. Ce qui fait que. Et peut-être, en fait, c'est aussi dû au fait que. Et là, peut-être on peut spoiler de façon.
Bon, on va spoiler, on est obligé.
De façon assez directe. En fait, ce n'est pas vraiment un film où la banque. Chute quoi, tombe en fait
non,
derrière,
bah
c'est-à-dire que voilà, et en gros tous les agissements en fait de cette enquête, tous les tenants et aboutissants finalement ne mènent pas à grand chose quoi, c'est-à-dire
en fait,
que
oui, vas-y, pardon Steph.
Et donc du coup en fait je pense qu'il n'y a pas de happy end assez prononcé,
mais il n'y en a pas
suffisamment
du tout,
en fait prononcé pour dire non, mais en tout cas pour dire que bah c'est-à-dire que bon t'as des banquiers qui payent quoi le prix, mais disons que c'est une soif, c'est ce que lui annonce d'ailleurs le banquier à la fin. Tu peux me tuer, mais ça servira à rien.
En fait, c'est ça qui est intéressant dans la fin. On commence par la fin. C'est n'importe
quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est important quand même parce que ça situe aussi le ton, je pense, du film. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans cette fin, c'est que donc le personnage de Clive Owen, et ça, c'est un ressort dramatique et narratif connu qu'on a déjà vu à multiples reprises, mais il est poussé donc dans ses derniers retranchements. Et en l'occurrence, son dernier retranchement, lui, parce qu'il est un agent d'Interpol. Donc les agents d'Interpol, c'est un peu particulier. C'est pas vraiment comme les flics de terrain, ils manipulent pas les flingues et tout de la même façon, tout, c'est loin d'être des tueurs en fait, c'est pas du tout ça quoi. Et donc lui il est poussé dans ses derniers retranchements, il décide très clairement, il rompt son association avec Naomi Watts en lui disant écoute, moi là maintenant je vais aller dans un terrain, tu ne vas pas pouvoir me suivre. Et ce terrain en fait c'est qu'il devient lui juge et bourreau en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il se retrouve face au personnage qui a en quelque sorte incarné la banque jusqu'à présent, que tu vois entrevois petit à petit, c'est pareil, c'est un travail qui est vraiment super
Eric Thompson, quoi.
Voilà, qui est la façon dont il a, je trouve, d'incarner ce personnage est tout à fait intéressante. Tom Tic Vert, tu le vois d'abord magouillé en fait avec un homme politique venu d'Afrique noire en fait. Et tu vas voir après, t'auras un petit payoff là-dessus, mais tu vois après dans sa famille comment il élève en fait son fils là-dedans, avec dans un cadre extrêmement feutré, dans une maison d'architecte, et il joue au jeu de go, je crois, et en fait il lui apprend la vie et la vision du monde telle que lui il la pratique en fait en direct avec ses collaborateurs.
Il a en fait son héritier.
Voilà, donc c'est l'incarnation de la banque. Le personnage de Clive Owen, spoiler de chez spoiler, hein, les amis, alors attention, mais il le tue, et en fait, tu te rends compte que
non, c'est pas le personnage de Clive Owen qui le tue.
Enfin, oui.
Non, mais en fait, moi, je parlais pas forcément de spoiler la séquence en soi, si c'était la mort du personnage, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, et c'était pour ça que je me permettais de commencer par la fin, on va dire, c'est que l'idée même, en fait, que ce film se plante, à ce moment donné en fait spécifique de l'histoire, on va dire, tu vois, économique, tu vois, avait des conséquences parce que justement il n'y avait pas de catharsis propre,
oui.
Si ce n'est en fait la mort de ce personnage qui est vraiment dicté comme tel.
Mais encore une fois,
dire,
en fait, c'est vrai, t'as raison, je sais pas pourquoi j'ai répété, mais c'est vrai que c'est pas lui qui le tue, mais en gros, il est presque le porte-flingue en fait. D'une famille un peu que t'imagines un peu mafieuse, ou en tout cas d'hommes politiques qui ont des trucs pas tout à fait clairs. Et puis le générique de fin se déroule sur mais tout va bien au final, au début ça va mal, mais la banque va se relever et tout. Et c'est ce qui se passait aussi à l'époque. Donc au final, en fait, le film est aussi le récit d'un homme qui est dans le sacrifice. À un moment, il y a une scène d'exposition, parce que l'exposition est très efficace sur certains trucs, et notamment sur les personnages. Et il y a une scène d'exposition, moi, que j'aime beaucoup, ils sont, Naomi Watts et les personnages de Naomi Watts et de Clive Owen sont dans un ascenseur. Et elle lui dit, mais t'as pas dormi depuis combien de temps? Tu t'es pas douché depuis combien de temps? Tu manges froid depuis combien de temps? Et t'as pas baisé depuis combien de temps? Et en fait, elle le dit, c'est pas une blague, c'est très sérieux. Et en même temps, t'as tout compris, en fait. Tu vois ça, tu dis, ouais, mais c'est, enfin voilà. Le fait qu'elle lui dise, t'as pas baisé depuis combien de temps, je trouve que c'est, tu t'attends pas à ça, ça te désarçonne un peu, parce que le pas manger, pas dormir, ça c'est pareil, c'est des clichés et tout, mais ça tu comprends, enfin je sais pas, c'est très parlant en fait sur les sacrifices, et donc ce personnage là va aller jusqu'au sacrifice ultime, tu l'as vu auparavant sacrifier sa carrière, tu l'as vu auparavant donc sacrifier sa vie personnelle et tout, va aller jusqu'au sacrifice ultime pour au final rien, absolument rien, et ça c'est vrai que c'est hyper déceptif en fait, c'est vrai que tu sors du film avec un poids sur toi, surtout à cette époque là en fait, qui est terrible, parce que c'est aussi ça en fait, cette crise financière où tu voyais tous les états qui étaient en train de bon, après on aura peut-être des vues différentes là-dessus avec certains de nos auditeurs, mais enfin tu voyais tous les états qui ployaient sous le poids des banques et qui étaient là en fait pour les renflouer, pour renflouer les conneries et les machins et tout quoi, et du coup c'est vrai que je pense que c'est quelque part un film qui pouvait, dont la sortie pouvait pas apparaître opportune, et qui au final ne l'est pas vraiment, parce que c'est vrai que il te dit juste, mais les gars, on a perdu en fait.
Ouais, et puis il y a cette idée toute bête en fait, que l'idée n'est pas de contrôler les guerres par exemple, parce que là en l'occurrence on parle de marché comment dire, de marché d'armes, tu vois, mais et de comment on va utiliser des machines qui contrôlent les missiles ou des trucs comme ça, comment on va les déployer, mais pas tant en fait pour contrôler l'issue de la guerre, mais pour contrôler la dette de la guerre, parce que c'est sur cette dette là qu'ils se font de leur beurre en fait. Ouais. Et le simple fait de les dicter de façon finalement assez limpide dans le film, c'est une manière de dire, de toute façon, le monde dans lequel on est totalement opaque en fait, si tu veux, c'est-à-dire que il y a tellement de ramifications économiques, politiques et comment dire, voilà, que, et ça le film le présente finalement assez simplement, assez directement, assez bien, mais c'est surtout en fait les enjeux sur les humains en fait qui sont intéressants, c'est-à-dire vraiment il y a toute l'idée de tous ces pions, tous ces personnages en fait qui se retournent, si tu veux, à un moment donné. Moi je pense que bon, ce qui est assez clair quand tu regardes le film, c'est que c'est un film qui est assez dynamique, mine de rien, pour un film qui est finalement statique dans son enquête. C'est-à-dire que, en gros, moi je trouve que les problématiques, on va dire, d'écriture de ce film, elles sont finalement assez structurelles. C'est-à-dire que c'est vraiment plus une question de, on arrive d'un point A à un point B, des fois avec des facilités, je trouve, de scénario, tu vois. Des trucs où on va chercher un gars qui est un médecin, on lui fait croire que y a un patient qui veut le tuer, et donc d'un seul coup les mecs ils ont accès à toutes ces archives, et d'un seul coup
moi j'aime bien cette scène parce que le personnage je le trouve rigolo, puis j'ai besoin de cette petite soupape aussi à ce moment là donc
mais
moi,
tu sens qu'on
sympa,
va d'un point A à un point B, un point C, un point D en fait, si tu veux, de manière un petit peu mécanique, je trouve, et
oui
en fait...
mais en même temps ça fonctionne de l'écriture qui est, comme tu le disais, avec des séquences extrêmement courtes en fait qui sont juxtaposées, et c'est aussi ce qui permet à mon sens de garantir en quelque sorte le rythme du film quoi.
Oui et surtout ce qui est assez marrant en le voyant aujourd'hui, c'est un film qui est sorti en 2009 si tu veux, qui est pré-téléphone portable, enfin smartphone en tout cas, tu vois, et en gros si tu veux tu vois déjà que quelque part il y a tu sais, enfin quand les mecs ne peuvent pas concevoir en fait qu'ils puissent être entendus chez eux, si tu veux, ou ce genre de choses, et donc t'as des scènes entières où il va voir par exemple son patron. Et il lui dit, viens, on va faire un tour. Et le mec dit, non, viens chez moi. Il pèle et il fait d'autres. Il fait non. Tu vois, et en fait, il lui arrache les fils et tout. Et là, t'es vraiment dans un truc de thriller d'espionnage à l'ancienne, en fait, presque. Ce qui, à mon avis, serait beaucoup plus. Enfin, aujourd'hui, ce serait complètement différent, la façon de faire ces choses-là.
Ce serait d'ailleurs plus problématique parce que ce serait moins visuel. L'avantage, c'est que là, du coup, il est obligé de casser le téléphone, de montrer le fil, de montrer le truc. Tu peux faire une très courte focale dessus pour que ça ressorte avec le mec qui est derrière. Enfin, tu vois, c'est des tropes visuelles qu'on a tous intégrées et qui fonctionnent super bien. Et c'est hyper pratique.
Mais
quoi.
Avec des petits moments. Voilà, donc de ce que j'appellerais des petits clichés du thriller d'espionnage, quoi. Mais après, le truc, c'est que en dehors de ça, ce qui est important, en fait, si tu veux, c'est les subtilités. C'est-à-dire dans aussi la démonstration de l'intelligence des personnages. C'est-à-dire intelligence avérée, intelligence émotionnelle. Par exemple, il y a cette première idée que à un moment donné, en fait, avec ce qui s'est passé avec Clive Owen, et notamment après la scène du musée Guggenheim, on va y revenir, mais en fait, pourrait être recherché. T'as des flics en fait qui rentrent dans la rue, si tu veux, et tu te dis bon ça y est, ils les ont attrapés, et t'as Naomi Watts qui font, ils t'ont reconnu. Le mec fait non, je crois pas. Bah en fait ils sont pas là pour toi en fait, ils savent pas que c'est toi, tu vois. Et en fait elle passe à travers et en fait ils s'enfuient, et ça marche très bien parce que tout bêtement la nana elle a posé sa tête à ce moment-là, elle a réfléchi. Elle a dit, est-ce qu'ils peuvent te reconnaître, ils peuvent pas te reconnaître, donc en fait ils savent pas que c'est toi.
Ça fait tout simplement plaisir aussi de voir des personnages dans un film qui sont plutôt intelligents en fait, voilà, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que le film te sème jamais vraiment, un petit peu de temps en temps, mais ça fait aussi plaisir, j'ai envie une partie, j'ai envie de dire du plaisir en fait de ce genre quoi. Mais c'est ouais, effectivement, c'est ça, c'est que c'est des personnages qui sont humains et qui sont intelligents en fait. Et c'est agréable en fait, c'est tout, enfin moi ça m'a fait ça aussi, tu vois, dans
et,
le truc,
et,
quoi.
Et il en va de même en fait justement dans l'écriture de la scène d'action, c'est-à-dire que en gros cette scène, alors apparemment c'est une scène qui a été rajoutée, en tout cas qui a été étendue si j'ai bien compris, parce
oui,
que
qui a été peut-être étendue, mais elle était tellement compliquée, j'ai du mal à croire à ça parce que c'est un des trivia d'IMDb, non, t'as
alors
vu ça
en fait le truc c'est qu'apparemment surtout que qui disait qu'il fallait dynamiser le film en fait, ouais, en termes d'action, j'ai du mal à croire qu'il y a eu des reshoots,
j'ai du mal en fait parce que c'est une scène qui a été, alors c'est marrant qu'on y vienne aussi tôt, je pensais qu'on finirait plutôt là-dessus, mais allons-y, mais c'est une scène qui est qui a été d'une, et comme on l'imagine, extrêmement complexe, et puis surtout elle est très préparée, enfin c'est-à-dire que t'as une scène, c'est un payoff en fait d'un truc qui a été mis en place auparavant, où t'as en gros un des employés en fait de la banque qui est au cœur en fait du complot, qui lui aussi a des révélations aussi sur son passé qui sont plutôt intéressantes, je trouve d'ailleurs, puisque c'est un ancien général communiste en fait de la Stasi, et je trouve ça très bien vu en fait que ce soit un ex du régime coco en fait qui soit à la botte en fait de ce que le capitalisme a pu produire de plus monstrueux. Je trouve que c'est bien vu. Mais donc ils emploient donc un tueur, un tueur à gages, et ils se rencontrent en fait dans un musée. Ce qui est intéressant aussi au niveau de...
Ce qui est fréquent. Hein, dans...
Ouais, mais où ça va se passer aussi le film ? Parce que moi, j'ai aussi envie qu'on parle tout à l'heure de l'architecture et de l'arrière-plan. Mmh. C'est un, très important, il me semble, dans le film. Et du coup, le payoff, c'est qu'ils se rencontrent un peu plus tard, mais là, au Guggenheim, qui est donc le musée de New York, que je pense que vous connaissez tous, même si vous ne l'avez jamais visité, qui est un musée d'art moderne. Et qui est un musée qui est connu parce qu'il est construit en colimaçon, c'est-à-dire que c'est une espèce, si vous voulez, de grand cône, de tour, avec la galerie en fait qui monte en fait à l'intérieur en colimaçon. Et c'est super intéressant et c'est un choix moi que je trouve génial, c'est-à-dire que déjà Tom Tykwer lui a vraiment réfléchi sur pourquoi j'ai besoin d'une scène d'action dans le film, et si j'ai une scène d'action dans le film, comment je vais faire pour qu'elle fonctionne. Et lui, donc, il se dit, j'ai besoin d'une scène d'action parce qu'au bout d'un moment, toute la tension qu'on a accumulée dans le film, il faut aussi qu'elle puisse ressortir au bout d'un moment. Et là, on parle pas de, comment dire, d'état mental, comme on l'a dit tout à l'heure avec est-ce que je vais sortir en étant guilleré ou est-ce que je vais sortir un peu plombé. Non, évidemment, il faut que tu sortes plombé. Moi, il me semble que c'est nécessaire d'un film qui aborde ce sujet-là. Mais par contre, pour que le fonctionnement, on va dire, émotionnel du film, il faut effectivement que t'as un truc où tu sortes cette tension-là et tu la sors à ce moment-là. Et le truc qui était intéressant, c'est que en fait, le personnage de Clive Owen et de Naomi Watts, mais surtout de Clive Owen, il est pris dans une espèce de spirale infernale, littéralement en fait, qui est personnifiée par le musée Guggenheim. Et il y a un dernier truc que moi j'adore, mais je pense que ça t'as aimé aussi Steph quand on en a parlé hors antenne tout à l'heure, mais c'est que au niveau de la topographie, de la scénographie en fait du gunfight, t'as rarement vu ça. Il y a deux choses qui sont super, c'est que c'est un musée qui est tout blanc, donc tous les impacts de balles, ouais, tu les vois à fond, il joue beaucoup avec ça. Et puis au niveau de l'emplacement en fait des gens et des façons de se cacher ou de revoir un autre ennemi et tout, c'est super parce que ça change en permanence, parce que tu comprends aussi tout de suite ce qui se passe, c'est à la fois cyclique et en même temps ça change en permanence, ça marche du feu de Dieu quoi.
Il y a aussi l'idée en fait, si tu veux, qu'il y a une association totalement inattendue à ce moment-là, c'est-à-dire oui. qu'en gros ils sont en train de pister un tueur en fait
occupe quasiment une heure du film, ouais, hein. C'est le mec à abattre, voilà, le tueur et le mec à choper pour faire tomber la banque.
Et d'ailleurs, la scène, elle est enclenchée par l'idée qu'ils le trouvent presque par hasard, c'est-à-dire qu'ils sont très proches de le trouver, mais en fait, ils se gourdent d'une rue, ils regardent en face au lieu de regarder, voilà, et en fait, ils auraient totalement pu passer à côté.
Il y a un des acolytes qui va chercher un café.
Voilà, et ils voient le mec, et là, ils le reconnaissent parce que c'est un type, en fait, finalement, qu'ils ont réussi plus ou moins à identifier dans une scène où le mec partait d'Italie puisqu'il a snipé un mec, un homme politique en fait, qui était à coquiner à la banque, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, une très belle scène de cinéma aussi, je trouve, c'est-à-dire que
la scène de reconstitution est excellente.
Voilà, parce qu'en fait, ce qui est très bien vu dans l'idée des deux balles en fait, qui vont retracer pour voir d'où ont tiré, parce qu'ils ont compris qu'il y avait deux tireurs en fait. Tu peux pas, en fait, c'est que du langage de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, la façon de regarder à travers le trou des bastos, en fait, il y a que en voyant à travers ce biais-là que tu comprends En fait, si tu veux, toi, en tant que spectateur, comment ils comprennent d'où ça vient. Pourtant, sur le papier, ça ne tient pas la route. En fait, c'est pas possible.
Ce qui est super, c'est que c'est là où tu vois la différence entre un Tom Tykwer, par exemple, et un Macquarie sur le
Jack Reacher.
Sur Jack Reacher. C'est-à-dire que t'as à peu près cette même typologie de dramatique. Et c'est vrai que Tykwer, tu pourrais t'arrêter sur quand il revoit, il y a une image fantôme, par exemple, du tueur et tout d'ailleurs, qui est sympa et tout, qui est intéressante. Mais par contre, la vraie idée de mise en scène, c'est qu'en fait, il y a deux balles qui sont tirées au même endroit, mais sur un poteau. Et en fait, le personnage de Naomi Watts et de Clive Owen découvre que en fait ça n'a pas été tiré du même endroit, que le tireur n'était, il y avait donc deux tireurs différents, déjà en mettant un petit tube en fait d'un petit drapeau, d'un petit fanion en fait, puisque c'est lors d'une
ils sont totalement en train de péter la scène de crime en
et du coup ça marche aussi dans le rapport avec le flic italien aussi, tu vois, mine de rien. Et puis effectivement, parce que Clavon regarde à travers et suivant l'angle en fait de la balle, il voit où était le tireur, et effectivement ça marche pas, je pense, comme ça dans la réalité.
Dans la vraie vie, tu peux pas.
Je suis sûr que tu t'interroges un spécialiste de la balistique. Le mec, il va dire non, mais ça marchera jamais. Mais par contre, cinématographiquement, effectivement.
C'est hyper fort, quoi.
C'est super, quoi. Tu vois ça, tu dis, ah putain, il y a un vrai cinéaste à la barre, quoi.
Et mine de rien, un point de vue, donc, sur le film. Vraiment. Et en fait, on en revient, donc, à l'idée de la scène du Guggenheim, tu vois, où justement, en fait, ce tueur, en fait, qui est le mec, en fait, qui depuis une heure, en fait, est.
Qui est ton antagoniste,
voilà,
en plus,
qui est redoutablement, en plus, comment dire, efficace, quoi, parce que c'est un tueur vraiment de sang-froid, quoi, qui ne paye pas de mine, il a une tête de prof de maths, en gros, hein, tu vois, plus ou moins, quoi.
Disons que toi, en tant que spectateur, tu t'attends à ce qu'ils arrivent à le mettre à terre après un pugilat monumental, voilà. Etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
En fait, quand les mecs arrivent, en fait, à cette séquence-là, ils vont pour l'arrêter parce qu'ils ont compris qu'ils se sont fait griller, encore avec un jeu de miroir, d'ailleurs, en fait, assez intéressant, quoi, et parce que, en fait, t'as le contre-champ à travers le miroir, où c'est ce truc, je pense, qui arrive à tout le monde, en fait, c'est-à-dire que tu crois que la personne te voit pas parce que tu la vois pas directement, mais quand tu te rends compte, en fait, que tu te vois toi-même, en fait, dans l'angle, en fait, voilà, d'un seul coup, t'as compris qu'elle t'a vu aussi, quoi. Et ça, c'est hyper bien pensé, ça marche hyper bien dans la séquence. Il l'arrête et le mec leur dit, mais ça sert à rien, les gars, parce qu'en fait, ils vont me tuer avant. Et ça arrive littéralement deux secondes après, c'est-à-dire, il lui tire dessus. Mais il portait un gilet pare-balles et finalement, il s'allie à eux à ce moment-là. Parce que
t'as Clive Owen et le tueur, donc le mec qui traquait, qui vont s'allier contre d'autres tueurs qui ont été dépêchés par la banque.
Dans la séquence. Et donc, ce qui se passe, en fait, à partir de ce moment-là, c'est que oui, t'as le facteur humain, si tu veux, qui est lié à Clive Owen, qui demande aux gens de se planquer, qui leur dit, planquez-vous, il y a des trucs. Parce que, d'un seul coup, tu comprends pourquoi il fait ça, en fait, le personnage de Clive Owen. Quel est son vrai but, en fait, quelle est l'idée, en fait, au-delà de ses valeurs, en fait, de faire ressortir, en fait, de protéger les gens, en fait, de travailler pour le bien commun, tu vois. Et t'as, en fait, cette idée que, et ça, c'est mine de rien important quand on va lui demander, justement, de dépasser ce truc-là plus tard, quoi. Mais t'as aussi l'idée que le tueur, c'était un tueur, en fait, c'était son métier.
Ouais.
Et que d'un seul coup, en fait, si tu veux, à l'article de la mort, et il le sait, quoi, tu vois, en fait, il décide de se ranger en une seconde sans même qu'on questionne l'idée, si tu veux, et pourtant elle est surprenante, si tu veux. On ne la questionne absolument pas parce que c'est la bonne chose à faire à ce moment-là. Et du coup, toute cette notion-là, en fait, et en plus, comme il est redoutablement efficace, en fait, il aide beaucoup Clive Owen, en fait, dans la séquence.
Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que littéralement, et c'est un peu l'idée aussi de la fin, c'est que l'intelligence du film de Tom Tykwer, c'est que des films de plus bas du plafond, on va dire, là-dedans, on personnifie en gros le complot. Te disent, voilà, c'est cette personne qu'il faut arrêter, ou ce groupe de personnes, au mieux, ou un truc comme ça, et c'est cet élément qu'il faut trouver et tout, et il s'arrête là, en général. Mais lui, ce qui est génial, c'est qu'il travaille ça, en fait, Tykwer, et c'est la même chose avec la fin, finalement, c'est que, pour des raisons dramaturgiques, il te personnifie, il incarne, en fait, l'ennemi, le danger, le truc à abattre et tout, et il fait attention à te dire... C'est plus compliqué que ça, en fait.
C'est un pion.
C'est un système. Mmh. C'est le système qu'il faut combattre. C'est pas l'humain, en fait. Et en combattant et en te focalisant sur l'humain, tu y arrives pas. Et il te le fait à trois reprises. Il te le fait avec le tueur. Il te le fait donc avec le dirigeant de la banque à la fin. Et puis il te le fait avec ce général de la Stasi aussi, qui va se rallier aussi finalement à leur cause très tardivement. Même bon, si lui, il te donne une autre perspective aussi sur le système et sur la problématique, quoi.
Est-ce qu'il fonctionne, à mon avis, dans cette scène d'action, au-delà même de la qualité de la scène en soi, c'est-à-dire tu peux la regarder une fois que t'as vu le film, je pense que tu peux la regarder assez avec une certaine
un plaisir
de cinéma, mais en fait elle ne fonctionnerait pas émotionnellement, en fait, si justement elle était pas à ce moment-là spécifiquement dans le film, et c'est tout ce qui a suivi, c'est-à-dire que on peut pas dire que The International est un film d'action proprement parlé, mais par contre, en fait, tout ce qui amène dans l'intrigue, dans le scénario à ce moment-là, en fait, c'est ce qui fait que la scène fonctionne.
Fonctionne,
du feu de Dieu,
exactement.
Quoi. Et en fait, bon, il y a évidemment l'idée que, comment dire, tout l'aspect cyclique en fait de l'endroit qui a été reconstitué, si j'ai bien compris, en fait.
En ils ont tourné un tout petit peu en fait au Guggenheim.
J'ose même pas imaginer comment tu pourrais tirer.
C'est très compliqué, ouais. Effectivement, là-bas, je vous laisse imaginer le prix des œuvres d'art, etc. D'ailleurs, c'est un artiste berlinois.
Même si tu les enlèves et que tu en mets d'autres.
Mais c'est un artiste berlinois, un vrai artiste contemporain en fait, qu'il allait chercher parce qu'il aimait justement ce travail. Et alors, il y a un autre truc que j'ai oublié. Je suis désolé. Pourtant, je l'avais préparé, mais je crois qu'en fait, c'est un truc qui mélange. Et c'est ça. C'est un artiste contemporain. Vidéaste, donc ça aussi c'est intéressant, ça marche super bien dans le film parce que ça te brouille la vision en fait quand il le faut. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça, ça te redonne de la profondeur et tout, et ça enrichit le plan, donc ça le rend encore plus exaltant à certains moments. Et en fait, il montre des séquences du quotidien dans des contextes qui ne devraient pas. Qui ne le sont pas du tout. Donc, par exemple, un facteur dans un contexte tout à fait particulier. Alors, tu le lis pas comme ça dans le film, mais l'idée de Tic Vert, c'était justement de rebondir en fait là-dessus. Et en fait, c'est ce qui survient au personnage principal à ce moment-là. Et c'est aussi une idée de prendre du recul par rapport à ta vie de tous les jours, à ce que tu vois, à ce que tu perçois en fait de ce monde-là, de ce système-là, pour essayer de le questionner. Enfin, tout fonctionne. Évidemment, il l'a pas fait par hasard. Et sinon, le reste avait été reconstitué. Alors, le film avait été tourné au Babelsberg. Là au studio allemand, mais là je crois que c'était dans un hangar pour des locomotives en fait, je crois.
Après il est un peu tourné partout le film, hein, parce qu'il y a des scènes
pour le Guggenheim spécifiquement, il l'avait reconstitué là-dedans.
Il y a des scènes à Milan, il y a des scènes à Lyon.
C'est 6 semaines de tournage je crois, hein, la scène de
mais de toute façon ça se sent. Et en fait, et l'autre idée en fait de la scène, alors qui est pour le coup beaucoup plus basique en fait, si tu veux, mais qui fonctionne très très bien, c'est que l'enjeu littéral c'est de sortir de là. C'est-à-dire vraiment de sortir de là avec le minimum de dégâts possible, ce qui est impossible, hein, vu que les mecs ils font tout péter, quoi, et qu'ils butent des gens dans des innocents et tout ça, etc., etc. Mais jusqu'à un point où finalement, quand tu regardes la scène et t'en arrives à la fin de la scène, quand eux arrivent à s'en sortir, ils laissent quand même des hommes de main derrière. Ce qui aussi ramène à un facteur humain différent. C'est-à-dire qu'au-delà de la survie, c'est pas de tuer en fait. Le but c'est de s'en sortir et de révéler le complot, on va dire.
Mais c'est là aussi où le film est d'ailleurs intelligent, c'est que moi j'aime beaucoup ce qui se passe tout de suite immédiatement après, et notamment à cette scène où ils sont à Central Park, là, ils arrivent devant Central Park, là, devant le grand réservoir.
Toujours avec une très belle vue, quoi.
Mais c'est magnifique. Il se permet tout à coup un plan. Quelque part un peu carte postale en fait de New York, ce qui se permet jamais avant en fait. Et c'est un très beau plan avec la neige qui commence à tomber, etc. Et tu te dis, après cette, parce qu'elle est longue, hein, la scène d'action et tout, et après cette brutalité et tout, avoir cette espèce de moment de douceur en fait dans le truc, moi je trouve que ça marche super bien. Ce plan, du coup, il est apaisant et tout. C'est là aussi où tu vois Tic Vert, c'est vraiment un mec intéressant, je trouve.
De toute façon, voilà, on pourrait faire un épisode par exemple sur Courlo la Cour, mais Courlo la Cour, ce qui fonctionnait dans le film en fait, c'était l'aspect très pas juste la musique techno machin tout ça, mais c'était vraiment l'aspect kinétique en fait, l'aspect de foncer,
l'énergie, l'inventivité, la cyclique, puis le concept,
et de montrer tout simplement aussi à travers des angles en fait de caméras différents en fait, si tu veux, comment il peut dynamiser une scène banale en fait de course, dans la rue ou des trucs comme ça. Donc
différemment, y réfléchir différemment, on en reparlera autrement.
Il le fait finalement dans pas mal de ses films, quoi. C'est-à-dire que même dans le film d'après, La princesse et le guerrier, il y avait des scènes comme ça, il y avait des trucs. Donc c'est quelqu'un qui pense le cinéma de manière assez dynamique, assez directe. Moi, j'ai un souci avec le troisième acte du film, qui est un peu, je trouve, pour le coup, je vois vraiment cousu de fil blanc. C'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est très joli, hein, Istanbul, tout ça et tout. Mais en fait,
moi, j'aime beaucoup l'idée que plus tu avances, plus tu arrives à des architectures. De plus en plus ancienne en fait, finalement, comme si tu arrivais à une espèce de racine, à une vérité antédiluvienne en
de
fait
la
en
source,
dire,
la
source du mal, mais je pense que c'est un truc volontaire, si tu veux, cette volonté de traverser comme ça le truc et tout. Et puis Istanbul, Constantinople, enfin je veux dire, ça a été aussi un point dans l'échange entre les hommes, un point sur le
berceau économique,
sur le marché économique, le fait que ce soit un lien entre l'Asie entre l'Orient et l'Occident et tout. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans et qui sont vraiment.
Je pense que c'est vrai, et de toute façon, même plus simplement que ça, il y a l'idée tout bête que en fait ce système, en fait, corrompt tout le monde entier, en fait.
Exactement.
Donc, en fait, si ça se passe à Milan, si ça se passe à Lyon, si ça se passe à New York, si ça se passe
à Berlin,
c'est normal, en fait. C'est des capitales économiques, quoi. Et en gros, l'idée, c'est que moi, ce qui me pose, on va dire, plus problème, c'est tout le truc autour de la façon dont il arrive à à comment dire entendre les discussions des mecs sans même se faire trop griller, puis quand il se fait griller c'est vraiment quand ça sert au scénario à ce moment là qu'il soit paumé par rapport au truc, il est pas
oui.
C'est des trucs en fait où je trouve que là dessus et d'ailleurs l'alliance qui va faire qui est une autre alliance en fait plus attendue je trouve quand même là avec le général de Astasi, enfin l'ancien général de Astasi, c'est
plus
quand
amené
même...
surtout
ouais mais c'est surtout en fait presque l'idée en fait que le mec rompe à ce moment-là en fait et s'associe à lui, je trouve ça presque trop facile en fait dans l'écriture quoi. Et
moi je trouve que ça manque d'efficacité
le plan
en fait,
voilà le
truc.
Plan est pas super bien élaboré à ce moment-là alors que le film est quand même assez limpide jusque
ouais, là. Ouais mais je trouve que ça manque un peu d'efficacité là, c'est surtout ça. Il y a un truc et je me suis toujours posé la question, c'est que Clive Owen, on parlait de lui pour refaire James Bond et il retourne en fait dans le réservoir romain d'eau romain en fait que tu as à Istanbul, qui est un lieu très connu et dans lequel avait été tourné Arsène Bon Baiser aussi, si mes souvenirs sont corrects.
Bon Baiser Russie, c'est pas à Istanbul aussi. Ouais.
Alors c'est Bon Baiser Russie, je me rappelle plus, mais bon, bref. Oui, c'est Bon Baiser Russie, je crois qu'il y a une scène d'action qui se déroule là-bas. Et à l'époque, je me rappelle que dans Inside Man aussi, je me souviens de ça et tout, mais il y avait des échos en fait sur ces acteurs qui sont pressentis pour faire James Bond. T'as toujours des échos et souvent les cinéastes ils font des petits clins d'œil en fait là-dessus. C'est tellement énorme Bond et je me suis toujours demandé s'il avait pas fait ça pour ça et s'il avait pas sacrifié un petit peu là-dessus. Mais le fait est que là où je te rejoins, c'est pas forcément sur le là-dessus, mais c'est je trouve que ça manque d'efficacité. Ça, elle est un peu longue en fait cette séquence et je trouve qu'elle aurait mérité d'être un véritable épilogue, ce qu'elle n'est pas vraiment en fait. T'as une vraie séquence qui a un petit peu développé, entreprésente des personnages, entreprésente des situations, etc. Et je trouve que, moi, j'adore la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle qui se passe au-dessus du grand bazar d'Istanbul.
Ouais, sur les toits,
ça,
ouais.
Je trouve ça super et tout, quoi. Et mais c'est vrai qu'il y a un truc où, surtout après la scène du Guggenheim, t'as envie que ça file, en fait. Mmh. Et t'as la scène.
Ouais, puis c'est un morceau qui prend de la place, hein, la scène du Guggenheim. Hein,
donc, ouais, voilà. Donc, alors après, mais peut-être que, parce que le podcast arrive à son terme, là, j'imagine, mais moi, je voudrais quand même qu'on termine sur une note très positive, qui est le reste de la mise en scène sur le reste du film. Et il y a notamment une idée que j'adore, moi, dans le film, et dont j'aurais aimé qu'on parle tous les deux, Steph, qui est l'idée de l'arrière-plan, en fait, et l'idée de la surveillance. Et le premier meurtre, en fait, du film, se déroule comme suit en fait. Tu vois très très tôt, bah tu commences avec le Clive Owen hein, dans le
sous
film, tu
pluie,
rentres
hein.
Sous la pluie avec Clive Owen, un très beau plan d'ailleurs, et donc tu commences avec son plan
alors
de vue
qu'il est très simple.
Mais,
et en même temps,
il est super beau.
Hyper bien cadré.
Ah,
c'est
beau ce plan, mais j'adore. Mais et donc en fait, donc tu rentres avec son point de vue et en gros, et il a donc ce collaborateur qui arrive au loin. Alors je crois que c'était l'aéroport ou la gare de Berlin qui était toute neuve à l'époque. Bon bref, il arrive de loin. Et il y a un personnage qui passe derrière lui, qui s'avère être le tueur, et qui le tue, en fait, qui lui donne un truc de cyanure, en fait, une piqûre de cyanure qui va le tuer immédiatement. Et en fait, tu percutes le truc très rapidement. Je me rappelle au cinéma, tu dis, mais ce mec qui est passé derrière, il y a un truc qui se passe, et il va t'appuyer ultérieurement dans le film, en fait, sur le fait qu'en fait, Clive Owen a vu le tueur derrière, mais que t'étais pas censé le voir. Et du coup, le film va tout le temps travailler là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Et notamment sur un truc que moi j'aime beaucoup, qui sont les surfaces vitrées. Le film, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Istanbul, se déroule en grande partie, puis il y a Manhattan et tout, donc avec beaucoup à Berlin, avec beaucoup d'immeubles modernes, de nuit souvent illuminés. Et ça, c'est pas un hasard, quoi, parce que c'est compliqué d'illuminer un immeuble, en fait, dans un tournage, et où tu vas avoir un truc où tu te dis, t'es jamais tranquille, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de te regarder dans le coin, et toujours quelqu'un, ou alors il y a quelque chose qui est en train de se passer en arrière-plan qui va pas être très, très clair. Et je trouve qu'il y a une vraie intelligence de fond, en fait, sur la mise en scène là-dessus. Enfin, je sais pas si t'es d'accord.
Ouais, bah, ça joue sur la parano du personnage aussi.
Totalement.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette
mais
notion.
Mais qui te plonge, en fait, là-dedans, quoi.
Il y a cette notion, en fait, de toute façon, voilà, que le personnage en lui-même n'est jamais entendu. Alors c'est un trope de des trucs de conspiration, bien sûr, mais qui est effectivement mis en image de cette manière-là. Après, c'est vrai que le film s'articule quand même aussi autour de pas mal de scènes clés, en fait. Tu sens que voilà, et c'est en ça, moi, où je trouve que la scène finale est déceptive, en fait, si tu veux, est décevante parce qu'on me reproche de dire déceptif, tu vois. Mais c'est que elle a beau être très belle visuellement. Et ça, tu peux pas l'enlever. Enfin, je veux dire, la scène, elle fonctionne très, très bien, quoi. Tu vois, ce fond, il manque, en fait. Si tu veux, à ce moment-là, tu vois, c'est cette notion. Parce que justement, la bascule du personnage, tu vois, outre le fait qu'elle n'est pas finalement totalement assumée, je trouve, tu vois.
Ouais,
l'idée même qui sortent en dehors des marges de la loi, tu vois. Ouais, ça reste quand même assez, voilà. y a un espèce de coitus interruptus qui me dérange pas en soi, en fait, si tu veux, mais c'est juste qu'en fait, s'il y avait quelque chose d'autre pour contrebalancer, le fond serait un peu plus respecté, en fait. On aurait un peu plus une conscience de
personnage. Donc toi, t'as un vrai problème, en fait, de fond sur la fin et sur le sort qui réserve le personnage de Clavo.
Ouais, tout bêtement, parce que moi, j'aime l'idée, en fait, si tu veux, qu'il ne puisse rien faire. C'est pas ça mon souci, en fait. Mais à la limite, même le fait qu'il se salisse les mains m'aurait,
il le fait, quand même. Ouais, t'as un mec qui le flingue, toi.
Bah, c'est pas forcément qu'il le flingue en soi, c'est qu'en fait, c'est la logique suivante, tu vois. Moi, j'ai l'impression plus qu'en fait, en fait, j'ai l'impression que c'est presque une note de, parce que je trouve que finalement, ce truc avec le tueur, italien qui arrive, en fait, qui vient venger, voilà. C'est pas hyper bien amené, en fait, tu vois. C'est un truc, en fait, ça tombe un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, dans la soupe, tu vois. Et surtout, si ça a été amené par
le joue comme un effet de surprise.
Oui, mais en fait, moi, je le lis presque, en fait, comme une note de studio. C'est-à-dire, apparemment, Tigver, enfin, lui, assume littéralement l'idée que ce soit un film personnel.
Moi, je sais que le film me laisse quand même sur un truc de désespoir, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime.
À la force des choses.
Tu vois, dans les films d'horreur, les vrais films d'horreur, j'adore quand t'as un sentiment de fin du monde à la fin de films. C'est très dur, je trouve, et là, c'est un sentiment de le monde est pourri. Et c'est ça, en fait, que j'attends, moi, des films de conspiration, en fait. C'est qu'à la fin, on me dise, le monde est pourri, quoi. Et je trouve que, tu vois, le plan sur Clive Owen avec ce crépuscule derrière, et puis les flares que fait le soleil de Turc, en fait. Il y a un truc vraiment où tu te dis, le mec, il s'est grillé, mais pour rien, et qui fonctionne sur moi.
Après. Alors, mais j'aurais tendance à croire quand même qu'à une époque, où la concurrence directe de Sims, c'est des trucs comme Jason Bourne, tu vois. Il y a quand même l'idée de faire une franchise, peut-être pas pour Tigver, mais en tout cas pour le studio.
Tu crois?
Ça m'étonnerait pas, ouais. Mais ça a été tué dans l'œuf par le beat du film. Et d'ailleurs, le film n'a pas très très bien été reçu, hein, par la critique aussi, quoi.
Oui, ce qui est étonnant, hein.
Ouais.
C'est vachement bizarre, quoi.
Et je pense que, à leurs yeux, parce que c'est toujours un peu le souci, je pense, de la critique, de manière, là, je prends vraiment une généralité, mais de confronter, en fait, ce que le film raconte à ce qui se passe, si tu veux, à ce moment-là dans le monde, tu vois, en bien ou en mal, on va dire. Et en l'occurrence, là, la problématique, c'est moins fort, on va dire, entre guillemets, ce que ça raconte que ce qui se passait vraiment à ce moment-là. Et mine de rien, je pense que c'est là où le film a pris un peu, parce que la comparaison ne se faisait pas forcément. C'est un film qui est développé depuis 6 ou 7 ans. Tu vois, donc en fait, ce que le film dit sur l'état du monde, c'est, enfin, cette crise, on n'y est pas arrivé en claquant des doigts. Donc le film est mal perçu, en fait.
Effectivement, je pense qu'il parle beaucoup, par exemple, il parle, comme tu disais tout à l'heure, de la dette et tout. Donc ils le savent, en fait. Et Tigver, il le savait.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est que je pense qu'il est passé notamment à travers le biais du trafic d'armes pour concrétiser en quelque sorte les magouilles financières qui vont éclater à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que finalement, peut-être qu'effectivement, t'as raison. Il y avait plus besoin, en fait, d'avoir le trafic d'armes.
Voilà, il y a un élément de crime, si tu veux, qui, en fait, qui est
superfétatoire, quoi.
C'est-à-dire, c'est même pas seulement ça, c'est que j'ai toujours ce sentiment, c'est comme alors ce n'est pas un podcast sur Gone Girl, mais j'ai toujours l'impression que pour expliciter, en fait, le danger du personnage féminin, il fallait qu'elle tue quelqu'un à un moment donné, sinon, en fait, il t'aurait forcément une partie du public qui comprendrait pas que c'est une perverse narcissique totalement, toxique, quoi, tu vois. Mais en fait, et donc, du coup, on rentre dans un élément criminel, c'est-à-dire on montre un élément criminel pour être clair, net et précis sur le truc, quoi. Et pourtant, Dieu sait que les banques, elles ont pas besoin de ça, en fait, tu vois. Donc,
non, mais c'est sûr, mais bon, après, c'est toujours compliqué. J'aime pas trop faire ce procès parce que c'est quand même tellement louable, en fait, d'essayer d'être clair, surtout sur un sujet pareil.
Et c'est un film qui fonctionne très bien, il faut le rappeler. Hein. Je suis comme déjà à l'époque, en fait, hein, je l'avais vu une fois à l'époque, je l'ai revu là, un petit peu déçu par la fin. Il n'empêche que c'est un film qui fonctionne très très bien.
Et qui se voit très facilement, en plus, c'est pas d'accord avec moi. C'est vrai que c'est un film où tu dis, qui parle des banques et machin et tout, mais si je peux vous encourager aussi, franchement, vous allez vous le lancer, ça glisse tout seul.
Ouais,
quoi.
Et puis, à tout prendre, je préfère, mais j'ai fait cette comparaison qui, je pense, est une comparaison de studio, hein, pas la mienne, tu vois, forcément, mais en fait, à tout prendre, je préfère largement regarder ça. Que ce soit en termes d'action, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de même ce que ça raconte, tu vois, que n'importe quel Jason Bourne.
Et ben voilà, et ben nous terminerons là-dessus avec la musique de Jason Bourne.
La musique de l'International. L'enquête. Non, voilà. La caquette, comme je dis.
La caquette, putain, voilà. Mais pourquoi la caquette?
Parce qu'il fallait un point caquette. Merci Julien.
Merci Stéphane.
Merci Alain. Merci à tous nos auditeurs. Pour nous suivre, c'est les réseaux sociaux habituels. On est un peu partout sur les agrégateurs de podcasts.
Partout,
aussi.
On est comme les banques en fait.
Ouais, ouais, nous sommes partout. Voilà, on fait pas du trafic d'armes.
Non.
Et
fait trafic de Blu-ray, nous.
Trafic de Blu-ray, tiens, tu l'as vu ce film, tiens, on le récupère, tu vois. Voilà. Ça nous, des fois, ça nous dit ce qu'on va traiter d'ailleurs la prochaine fois, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, on sait pas ce que ça sera, on verra. En tout cas, on vous conseille vraiment de revoir l'enquête. The International, cherchez-le par le titre anglais parce que l'enquête, il y a tellement de films qui s'appellent comme ça que voilà.
Il n'a même pas parlé de Naomi Watts, c'est pas normal.
Elle est très bien.
Elle est bien. Hein.
Elle est bien, Naomi Watts, dans le film, tu vois.
Ouais. Mais bon, toujours ça, bien.
Voilà, tu veux pas parler, il fallait en parler avant.
Mais oui, allez, c'est fini.
C'est fini. Merci.
Adieu
à tous.
Au revoir. Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.